Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans ce colloque. Je suis très contente d'y participer. Et je vais partir en fait d'un texte que certains d'entre vous connaissent. Il s'agit d'un monologue tenu par l'inspecteur Meunier dans le film Pépé le Moko, qui est sorti en 1937 et qui se passe dans la Casbah d'Alger. Je vous raconte l'histoire, enfin, c'est un personnage qui est prisonnier dans la Casbah d'Alger. Et donc, il y a le rôle d'un policier qui traque le héros et qui tient un monologue très célèbre. Je vous dis simplement le début de phrase. Monologue, vu à vue d'un vol d'oiseau, le quartier d'Alger qu'on appelle la Casbah, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est une marche qui descend à la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et sombres, des ruelles en forme de décapant, des ruelles qui se croisent, se chevauchent, s'enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Alors, on peut partir donc de ce film qui a connu un grand succès en 1937 pour s'interroger sur la question de l'appropriation d'espaces urbains, d'espaces ici devenus touristiques, cet espace touristique par excellence donc, qui était la Casbah dans les années 30 à Alger. Alors, avant de m'interroger sur cette appropriation d'un type particulier, je voulais définir ici la façon dont j'entends le terme d'appropriation qui est au cœur de notre colloque, puisqu'il s'agit d'une appropriation bien particulière. Ce n'est pas une appropriation au sens concret du terme, se rendre propriétaire d'un bien ou d'un espace, mais bien d'une appropriation symbolique, d'une appropriation en fait d'un lieu, mais d'un patrimoine aussi, qui, puisque nous sommes dans un espace colonial, n'est pas celui de la nation et de l'histoire des colonisateurs, mais une appropriation qui justement a pour but de faire entrer ce patrimoine-là, cet espace-là, et cette histoire-là dans le patrimoine et dans l'histoire du colonisateur. Donc il s'agit de faire entrer une histoire et un patrimoine dans son patrimoine et dans son histoire. Alors dans ce processus qui est bien connu, Nabila Oulebsir en a parlé dans son beau livre sur l'histoire du patrimoine en Algérie au 19e siècle jusqu'en 1930, le tourisme joue sa part. Il joue sa part parce qu'il contribue tout d'abord à sélectionner les lieux d'abord à voir qui peuvent entrer, je dirais, dans le patrimoine qui va être ensuite conservé. Et il contribue donc à cette sélection, donc patrimoniale d'une certaine manière, et il contribue aussi à la diffusion de la connaissance et du goût pour ce patrimoine dans un public plus large que celui des spécialistes qui s'intéressent au passé ou qui définissent scientifiquement le patrimoine. Donc il joue sa part dans l'appropriation de ce patrimoine, non seulement auprès d'un public venu de l'extérieur de la colonie ici de l'Algérie, mais ce qui m'intéresse plus, moi, c'est l'appropriation par des touristes internes, si je puis dire, c'est-à-dire ceux qu'on appelait les Français d'Algérie. Alors, dans un premier temps, je vais retracer les contours un peu rapidement de cette appropriation de façon générale. Ensuite, je vais m'intéresser à la façon dont cette appropriation porte plus spécifiquement sur la Casbah, en mettant en évidence une contradiction qui est bien connue par ailleurs, partout, qui est entre la reconnaissance d'un lieu touristique et d'un patrimoine amène souvent à vouloir le conserver, évidemment, à le figer d'une certaine manière. Et il peut y avoir contradiction avec la nécessité d'aménager ce territoire pour des raisons en particulier hygiéniques, comme on a vu dans le cadre de Calcutta hier. Donc, une contradiction que l'on va voir se mettre en place, plus particulièrement pour la Casbah, dans les années 30 à Alger, quand se pose la question crûment posée dans la presse, faut-il démolir la Casbah ? Et donc, c'est sur ce suspense je vais commencer. Alors, tout d'abord, le mouvement d'appropriation, je dirais, d'un patrimoine ou d'un espace patrimonial dans une ville passe par différentes voies. en plusieurs étapes. Alors, pour le cas de l'Algérie, je dirais que la première étape, c'est la reconnaissance, ou la volonté plutôt de connaissance du passé, comme en a parlé Emmanuel tout à l'heure. Et ainsi, on voit apparaître en Algérie, mais je vais aller très rapidement parce que les choses là sont connues, les premières sociétés d'histoire, comme la Société archéologique de Constantine, la Société historique d'Alger, l'Académie d'Hippone, entre les années 1850 et 1863. Hein, donc c'est vraiment très, 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 très précoce. Et donc, par le biais de ces institutions, se développe parmi les élites européennes une conscience historique, locale, si je puis dire, et aussi une conscience patrimoniale qui concerne non seulement le passé antique, hein, qui est souvent glorifié pour les raisons que l'on connaît, mais aussi l'héritage légué par le monde arabo-musulman. Et une sorte d'identité locale prend forme, je pense, dès les années 1870-1880, peut-être même avant, parmi les Français d'Algérie, et j'en trouverai une trace très indirecte dans un roman peu connu de Jules Verne qui s'appelle « Clovis d'Ardentor », où on voit un personnage donc partir visiter l'Algérie, et il rencontre une jeune femme qui s'appelle Louise Elissane, qui est née à Oran, donc c'est la deuxième génération, c'était très intéressant ce que vous évoquiez tout à l'heure, donc de cette prise en charge du passé local par la deuxième génération, et cette Louise Elissane, donc Clovis d'Ardentor, alias Jules Verne, a décrit ainsi, Louise Elissane, fort instruite, répondit sans pédanterie à quelques questions qui furent posées, mais ajouta la jeune fille, notre ville n'a pas toujours été heureuse et son histoire est féconde en calamités. Sa tranquillité ne date que de la domination française. Ce qui est intéressant, c'est notre ville, en fait, et on est là dans un processus d'appropriation, donc par cette fameuse deuxième génération, et ici, une jeune femme. Alors donc, appropriation du passé d'une certaine manière, qui passe par les institutions savantes, dans laquelle on retrouve tout cet aréopage à la fois d'hommes politiques et en même temps d'intellectuels locaux. Le deuxième processus, c'est, je dirais, le processus de patrimonialisation, c'est-à-dire la reconnaissance des bâtiments historiques et le souci de les préserver. Donc la première mission scientifique de 1837, donc conduite par Amable Ravoisier, parcourt le pays en faisant des relevés, des dessins, croquis, et il est le premier à proposer un inventaire des monuments antiques et arabes du pays. Et on peut retrouver, je dirais, en 1872, le même processus dans la mission conduite par Edmond Dutoit, donc, qui a pour but de faire le point sur la conservation des monuments arabes. Et c'est dans ce contexte, donc, qu'est élargie à l'Algérie la loi sur la protection du patrimoine qui est adoptée en France en 1887 et qui stipule, donc, dans la loi même, que ce processus de protection du patrimoine doit être adopté en Algérie. Et c'est dans, on peut mettre aussi dans ce même mouvement, je dirais, de patrimonialisation, la création des musées. Le premier musée fut fondé à Alger en 1838, etc., etc. Bien. Alors, ça, c'est un processus qui est bien connu, mais que je voulais rappeler, donc, celui de l'appropriation du passé et du patrimoine local, si je puis dire. Cette appropriation, elle passe aussi pour les Français d'Algérie par une connaissance concrète du territoire qu'ils habitent. Et cette connaissance concrète, elle passe, me semble-t-il, par la randonnée, la visite, la promenade. Et lorsque l'on parle de tourisme dans les colonies, on parle souvent du tourisme venu de l'extérieur. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce tourisme intérieur. Et ce tourisme intérieur, on le voit se manifester dès la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, exactement comme en France d'ailleurs, par le biais d'associations ou de sociétés qui existent en France et qui vont se déployer aussi en Algérie à peu près au même moment, comme le Touring Club par exemple d'Algérie, qui a pour but à la fois de développer le tourisme, de visiter les monuments, mais aussi de les signaler, très simple. Très symboliquement, enfin très concrètement, par toute une signalétique, mais aussi de participer aussi à la préservation. Et puis, dans parmi ces institutions, il faut citer le comité du vieil Alger. Ce comité, il en existe à Paris, il en existe un peu partout en France, mais aussi dans les colonies, donc créé en 1904, dont la cheville ouvrière fut Henri Klein, et qui va plaider donc pour la conservation des monuments anciens à Alger. Et l'un des arguments les plus importants, celui qui souvent va jouer, je dirais, pour un rôle clé pour la préservation des monuments, c'est l'argument touristique. En effet, Alger, sous le coup des transformations urbanistiques, se banalise. Quand Tartarin de Tarascon arrive à... il a l'impression, quand il arrive, d'arriver dans une ville de la sous-préfecture de Provence. Donc, pour attirer les touristes, eh bien, il faut conserver le caractère oriental de la ville. Hop, voilà, par exemple, ce que disait Henri Klein, il est incontestable que c'est à son caractère oriental, plus qu'à ses nouveautés européennes, qu'Alger doit être si visité par les touristes. Pour ceci, en effet, la grande séduction de notre ville réside dans son héritage musulman, dans ce qu'elle a su conserver de l'ancien El Jezaïr. En multipliant partout les échantillons mauresques, nous restituons à ce pays une partie de l'originalité qu'il avait perdue par notre faute. Et on retrouve cette nostalgie dont Emmanuel parlait tout à l'heure, puisqu'évidemment, cette préservation, elle se base sur la nostalgie de ce que les Français ont détruit lorsqu'ils sont arrivés à Alger en particulier. Enfin, de la sorte, nous réhabiliterons devant la postérité et nous ferons pardonner les méfaits que nous avons accomplis parmi tant de belles œuvres indigènes sous prétexte de civilisation. On pourrait en dire beaucoup, on viendra peut-être dans les questions. Alors, les considérations touristiques donnent une sorte d'urgence au sauvetage des traces du passé, donc menacées par la pioche des démolisseurs, et en particulier juste avant la guerre de 14, il s'agissait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais de détruire deux mosquées qui sont dans le bas de la ville d'Alger, et la démolition projetée de ces mosquées donc a suscité tout un débat. Ce qu'il a, je vais donner un exemple, voilà. Donc un exemple, je dirais, de ce débat. Souvent, les touristes qui affluent chez nous pendant la période hivernale se sont émus de l'état de délabrement et d'abandon dans lesquels sont maintenus les hauts quartiers. Il est certain que ce qui constitue le quartier pittoresque d'une cité nord-africaine ne sont pas les maisons à 5 étages, encore qu'elles soient en général de remarquables blancheurs, etc. C'est les vestiges qui rappellent le passé avec ses traditions. Voilà. Et dans la discussion autour de la démolition programmée de ces deux mosquées, donc avant la guerre de 14, eh bien, l'argument touristique a certainement fait pencher la balance en faveur de leur maintien sur le site qu'elles ont toujours occupé. Alors, ce que je voudrais, après ces quelques considérations générales, en venir au cas précis de la Casbah. Donc, la Casbah, en fait... vous la trouvez, c'est un plan d'Al-Jazair, donc d'Alger en 1830. C'est la partie haute de la ville, hein, c'est la partie ancienne, je pense que tout le monde connaît la Casbah. Elle a subi des transformations à la fin du 19e siècle, en particulier le percement de grandes avenues dans sa partie basse. Et comme le texte le montrait tout à l'heure, c'est un entrelac de petites rues où vit, nous le verrons, une population essentiellement arabo-musulmane, et kabyle aussi. Alors, ce quartier de la Casbah devient, dès la fin du 19e siècle, voire même avant, le quartier le plus touristique d'Alger. Et dans les récits du voyageur, par exemple, eh bien, c'est un détour absolument obligé que de passer par la Casbah. Il y a même un récit de voyageur qui nous raconte, il est à la recherche de l'authenticité, bien entendu. Eh bien, il arrive à Alger, le bas Alger le déçoit énormément. Et enfin, il court dans la Casbah et il se retrouve enfin dans le monde qu'il venait chercher. Alors, d'autant plus, comme je l'ai dit, que Alger se banalise d'une certaine manière, s'osmanise, et donc reste ce que l'on appelle oriental, authentique, dans les guides qui se succèdent en Algérie. Alors, cette casbah, elle entre aussi dans l'imaginaire des Français de façon plus générale, en particulier dans les années 30. J'ai évoqué le film de Jean Duvivier, donc de Pépé le Moko, où les décors ne sont des décors, ils sont pas naturels, il y a juste quelques vues qui sont naturelles, mais elle a été reconstruite. Mais il y a aussi une multiplication, enfin, relative, de textes autour de la casbah. J'en cite deux qui sont d'ailleurs écrits par des femmes, il faudrait peut-être s'interroger. L'une, c'est Lucienne Femme, qui s'appelle Dans la casbah, qui est une sorte de description poétique de la casbah. Et l'autre, de Rosalia Bentamine, donc qui est mariée au docteur Bentami, qui faisait partie des jeunes Algériens, un réformiste algérien qui situe un roman dans l'enfer de la casbah, c'est le titre de son livre. On a donc une appropriation dans l'imaginaire touristique à la fois des Français d'Algérie, en particulier la casbah et le comité du Vieil Alger cherche à préserver la casbah, multiplie aussi les visites de la casbah, mais aussi dans l'imaginaire français, voire européen. Il y a même des chansons dans les années 30 de jazz autour de la casbah. Alors, ceci dit, la casbah, dans ces années 30, est devenue aussi le lieu de tous les problèmes, pour trois raisons. Première raison, c'est que c'est un lieu qui a vu sa population brutalement, enfin pas brutalement, mais augmentée. La population est passée de 1906 à 37 000 à peu près habitants, et en 1926 à 59 000 habitants. C'est pas seulement le solde naturel, mais c'est aussi l'émigration, venue en particulier du reste de l'Algérie, et le fait aussi que, on verra, une partie de la population du quartier voisin de la Marine va dans la casbah. C'est un lieu où se concentrent tous les malheurs sociaux, si je puis dire, chômage, maladie. La casbah est aussi, dans cette ville blanche, européenne, dans sa majorité, la ville dite arabe. Le bas de la casbah est peuplé par la population juive, une population juive importante, mais la casbah, c'est une population arabe kabyle, une population musulmane. Et c'est aussi, ça commence à devenir aussi, je dirais, un centre politique important. J'évoquerai par exemple, au bas de la casbah, donc autour de la place du gouvernement, la création du Cercle du Progrès, qui est un mouvement réformiste qui apparaît en 1927, des écoles, en particulier l'école des oulémas, un mouvement aussi proto-nationaliste, qui est créé dans la casbah en 1927. Donc la casbah, c'est aussi un lieu, je dirais, surveillé par la police, non seulement parce que c'était un des hauts lieux de la prostitution, un haut lieu aussi de tensions sociales, mais aussi de tensions politiques. Ceci dit, dans les sources que j'ai évoquées, jamais la question politique n'affleure. Quand on parle de la casbah dans les débats que je vais évoquer, on parle tourisme, on parle patrimoine, on parle culture, sociale, etc., mais jamais politique. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, donc, que faire de la casbah dans les années 30, et en particulier au début des années 30? Alors, pourquoi la question se pose-t-elle? C'est parce que le quartier voisin de la casbah, le quartier de la Marine, qui était peuplé, population de petits blancs, donc vous avez des maisons qui s'effondrent à la fin des années 20, et donc se pose la question de la démolition de ce quartier de la Marine et de la reconstruction de ce quartier-là. Et donc, de façon corrélative, on se pose aussi la question de que faire de la casbah. Alors, vous avez un questionnaire qui est, une enquête qui est faite par un journal qui joue un rôle important dans la question d'urbanisme en Algérie, qui s'appelle le Journal général des travaux publics et du bâtiment, qui pose la question, donc, faut-il faire de la casbah? Faut-il la démolir? Et là, on a des réponses absolument extraordinaires. Alors, le docteur Lemaire, chef du service d'hygiène d'Alger, lui dit qu'il faut conserver la casbah, mais que pour des raisons sanitaires évidentes, il faut l'aérer. Vous savez, c'est les principes hygiénistes, y faire des percées, etc. Mais en même temps, ne pas lui faire perdre son authenticité. Un jeune architecte, Léon Claro, considère que on peut assainir la casbah, parce que c'est le terme qui est souvent employé, assainir la casbah, mais la démolir, non. Il faut la moderniser, mais pas la démolir. Alors, cette idée donc de conserver la casbah tout en l'assainissant n'est pas partagée par tous. Par exemple, l'Union des syndicats des techniciens dit « il faut démolir la casbah ». C'est un foyer de mort. Et qu'on ne nous parle pas d'orientalisme et de pittoresque. Il ne faut pas la sauvegarder. Elle n'est pas plus orientale, c'est absolument extraordinaire, que les bouges de Marseille. L'intérêt de Casbah n'existe que pour les amateurs de tournée des Grands-Ducs. Ce n'est pas pour ces gens qu'on doit condamner 45 000 personnes, telle est la population du 2e arrondissement, à un raccourcissement de vie. Donc là, on a un principe à la fois urbanistique et hygiéniste. On démolit la casbah. Et on la démolit pour reconstruire des maisons à l'oriental et y repeupler avec les populations arabes. Et tel est aussi le point de vue très particulier et très original d'un chef de file de la littérature algérianiste, cette littérature qui s'approprie complètement l'Algérie, puisque dans ce courant-là, les écrivains considèrent qu'ils sont algériens, non plus français, mais algériens. Donc Robert Rando, le chef de file de ce courant, considère que la casbah a perdu son cachet et sa vertu touristique et qu'il faut complètement la démolir. Tel n'était pas le point de vue en particulier de Le Corbusier, qui est arrivé dans ces années 30 et qui considère qu'il faut démolir toute la ville européenne et ne conserver que la casbah. Alors, cette discussion, si vous voulez, elle prend place aussi au moment où ce débat, le plan d'aménagement de la ville d'Alger, je n'ai pas le temps de développer ici, mais comme toutes les villes en France et dans l'Algérie est considérée comme la France, on met au point des plans d'aménagement, ça s'appelle un plan d'aménagement et un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes. Et dans ce plan d'aménagement, en 1933, je ne sais plus où j'en suis du temps,
c'est une bonne minute.
D'accord. En 1933, donc, après moult discussions, est décidé de... alors, c'est un plan par zoning, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est l'Uranus de cette époque-là, donc qui délimite des zones résidentielles, des zones d'affaires, des zones, etc. On va créer une zone spéciale pour la Casbah, qui est la zone E. Et dans cette zone E, eh bien, finalement, on va distinguer la partie haute de la Casbah, qui sera conservée en l'état, et la partie basse de la casbah, qui sera démolie en partie, mais dans laquelle on va restaurer les monuments hérités du passé. Alors, on va nommer aussi une commission de la casbah, donc qui... doit faire respecter, en particulier pour toute rénovation ou construction, le site de la casbah. Alors, je voulais, mais j'ai quelques minutes, voir comment ce débat, cette discussion, est vue par les populations locales, bien entendu, parce que c'est la question qu'on se pose. En 1939, au conseil municipal d'Alger, se pose à nouveau la question de la casbah. Et là, les élus indigènes, comme on disait, c'est le vocabulaire de l'époque, prennent la parole. Et je voulais citer ici l'un d'entre eux, donc qui s'appelle Amar Ouzegan, qui a joué un très grand rôle par la suite, qui est un élu communiste, qui sera pré-communiste, qui dit « Nous, conseillers municipaux habitant les quartiers si déshérités de la haute ville, nous pensions que la casbah ne doit pas être examinée seulement du point de vue archéologique et touristique, mais également du point de vue hygiénique et social. Certes, la casbah est unique dans son genre, elle présente un intérêt historique indiscutable, mais si nous sommes d'accord avec les archéologues pour conserver et restaurer les quartiers de la casbah ayant un réel cachet d'architecture mauresse, vous êtes souligné dans le texte, et que Fromentin a vanté avec tant d'autres... écrivains. Par contre, nous nous dressons avec énergie contre les partisans du statu quo qui, sous prétexte de favoriser le tourisme, veulent le maintien absolu de la Casbah dans son état actuel, etc. Donc, ce qu'ils préconisent, c'est non pas de démolir la Casbah, surtout pas de démolir la Casbah, qui est considérée aussi comme le cœur historique de la ville, mais de l'aménager, de l'assainir, et en particulier, le débat va s'engager sur la repopulation d'une partie de la population de la Casbah. Or, si il a été question de reloger les populations européennes de la pêcherie dans des logements de type HBM à la périphérie de la ville, eh bien, rien n'est... La question ne se pose absolument pas pour la Casbah complètement surpeuplée. Alors, pour conclure, ce débat de 1939, que j'ai à peine évoqué, donc pose la question des différents modes d'appropriation, à la fois patrimoniale, historique, mais aussi touristique, de la Casbah. Donc la Casbah, on l'a vu, est, considérée comme une sorte de môle touristique, indépassable pour certains, pas pour tous bien entendu. Donc on a d'un côté une appropriation symbolique qui fige la Casbah dans un passé révolu et qui d'une certaine manière fait l'impasse sur la condition de vie des habitants, et qui est en même temps, je dirais, une vision très colonialiste des choses, quoique on pourrait en discuter, parce que ce silence, je dirais, sur les conditions de vie des habitants des quartiers centraux des villes, peut-être que ça se pose en France de la même manière. Ceci dit, chez les Français ou les hommes politiques français d'Algérie, cette vision d'une Casbah figée dans un passé révolu, on l'a vu, n'est pas partagée par tous. Une vision moderniste pourrait aussi faire table rase de la Casbah. Et de l'autre, on voit poindre, à travers les débats de 1939, un autre type d'appropriation de la Casbah, une appropriation peut-être plus intime. C'est le cœur de la ville arabe, si je puis dire. Il manifeste un attachement à cette histoire, à son style, mais aussi, on peut voir aussi s'affirmer une sorte de résistance peut-être à l'ordre colonial. En 1939, c'est la première vision, celle de figer la Casbah, qui triomphe. Et on la voit ressurgir après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le tourisme reprend en Algérie. Je terminerai simplement en disant ceci, c'est qu'en 1930, dans les années 50, en particulier pendant la bataille d'Alger, la Casbah devient un autre lieu d'appropriation, si je puis dire, mais un véritable terrain de conflit, terrain de guerre entre l'armée française et le FLN. Voilà.
Merci pour la discussion.